Bienvenue à Liège. Donc, du fond du cœur, notre université, notre ville est très heureuse de vous avoir dans ses murs. Je remercie également Paul de m'avoir invité à ce grand plaisir de faire l'introduction. Hein. C'est toujours une petite compensation par rapport au gros travail que représente le boulot de vice-recteur de pouvoir participer, ne serait-ce qu'en partie, à des événements comme celui-ci. Alors, de façon assez facile, je pense que d'autres l'ont fait avant moi, en accueillant des invités non liégeois, je vais me permettre de me servir de cette belle salle pour vous faire une très brève introduction à notre université. Donc pour ceux qui sont érudits, n'essayez pas de déchiffrer la phrase en latin, parce que même en français, elle ne veut pas dire grand-chose. J'ai eu la traduction, mais c'est à peine plus compréhensible en français qu'en latin. Mais c'est un chronogramme. Et en fait, vous avez remarqué que certaines lettres sont en majuscules. Et en fait, en chiffres romains, c'est l'année 1824, qui n'est pas l'année de création de notre université, mais l'année de construction de cette salle. Notre université a été créée un peu plus tôt, en 1817, juste après que nous ayons cessé d'être français, car nous fûmes français jusqu'à Waterloo à peu près. Et quand nous fûmes hollandais pendant une trentaine d'années, une quinzaine d'années, Guillaume Ier, que vous voyez là-bas, le monsieur là sur la grisaille, a créé deux universités le même jour, l'université de Gand en Flandre et l'université de Liège ici. Alors on la considère souvent comme notre université sœur, hein, sœur jumelle, puisque née le même jour. Ils sont un peu plus hauts que nous dans les rankings, mais bon, il faut le dire à personne. Hein, mais enfin bon, on peut se servir d'eux comme d'un modèle peut-être, une longue histoire. Bref, donc c'est l'université de Liège, cette université qui est dite complète. Bon, dans notre jargon à nous, ça veut dire que nous avons toutes les facultés, y compris une faculté de médecine vétérinaire. Nous sommes les seuls en communauté française de Belgique à avoir une faculté de médecine vétérinaire et une faculté d'agronomie. Alors bon, c'est toujours bien d'être complet, c'est pas toujours bien non plus pour le branding que les gens des rankings adorent. Faire trop de choses n'est jamais très bon, il vaut parfois être mieux, plus spécialisé. Moi, je trouve que pour un environnement universitaire, c'est bien d'avoir de tout, et notamment dans des projets transdisciplinaires comme la santé globale, etc. Donc je pense que c'est un atout pour notre université. Donc à peu près 30 000 étudiants, hein, pour vous situer par rapport aux institutions que vous connaissez dans vos villes respectives. Pas mal d'étudiants étrangers, hein, on attire pas mal d'étrangers d'Europe et en dehors de l'Europe. On a un passé colonial dont on ne peut certainement pas être particulièrement fier, mais ces liens coloniaux font que nous avons bon nombre d'étudiants qui viennent notamment de République démocratique du Congo et qui enrichissent clairement la vie de notre université. Université de recherche avec des budgets de recherche qui sont importants. Des liens avec l'industrie. Donc, si vous êtes venu juste de la gare, vous n'avez peut-être pas vu, mais ceux qui sont venus par la route ont peut-être vu un gros bassin sidérurgique comparable à ce que vous avez en France à Longwy ou à Dunkerque ou au Grand-Duché de Luxembourg, à Escheralzette, etc. Et donc, Liège a réellement été créé, notamment dans un contexte d'interaction de l'université avec le monde de l'entreprise. Et ça fait également partie, je dirais, de notre fonctionnement, de notre ADN, comme on dit souvent, de façon un peu galvaudée. Alors, Paul m'a demandé également d'introduire très brièvement cette notion que vous connaissiez mieux que moi, qui est la notion de science ouverte au sens large. C'est quelque chose que j'ai surtout connu par l'open access, puisque le Liège a adhéré à... Je crois que c'est le traité de Budapest, Paul, c'est bien ça, en 2002, c'est l'année où moi je suis devenu chargé de cours. Et donc toute ma carrière professionnelle, j'ai grandi, si je puis dire, enfin j'étais déjà grand à l'époque, mais jeune chargé de cours, j'ai grandi avec Orbi, puisque c'est le nom que nous donnons à je sais le dire en anglais, mais pas en français, repository, répertoire institutionnel, hein, qui compte plus de 200 000 publications maintenant. Et je suis devenu vice-recteur un peu par le hasard des choses il y a un an d'ici, et ce qui m'a donné la possibilité de rencontrer Paul et son équipe et de constater que la notion d'open science dépassait très très largement l'open access, et à tel point que nous avons mis un point d'honneur à mettre dans notre programme stratégique institutionnel les différentes déclinaisons de l'open access, l'open innovation, l'open science, la science participative, etc., qui sont des domaines que Paul connaît mieux que moi. Un mot sur la thématique de cet après-midi, donc la sobriété d'une part, la durabilité de l'autre. C'est également pour nous, comme pour beaucoup d'autres universités dans le monde, des thèmes cruciaux. Il faut savoir que deux membres de notre équipe rectorale ont pour prérogative principale ces aspects-là. Nous avons un neurochirurgien qui est responsable de la sobriété numérique dans notre université, comme quoi nous cultivons la transdisciplinarité, et une économiste qui est responsable de tous les aspects de durabilité. Nous avons toute une série de plateformes qui permettent aux étudiants, à la communauté universitaire en général, de participer à des projets impliquant la durabilité. Il faut savoir aussi, j'y reviens à ce passé industriel, j'étais pas plus tard que vendredi, on m'avait invité à aller visiter un des hauts fourneaux à 85 mètres de haut, qui est devenu un tas de rouille fondamentalement, mais quand on monte là-dessus, on palpe réellement ce qui a été le passé de notre région. Donc l'Université de Liège appartient à un réseau de 11 villes européennes, réseau unique, qui ont pour point commun d'être des villes post-industrielles. Et qui toutes, sous de façon diverse, cultivent ces aspects de durabilité, de reconversion, etc. Donc, ce sont des thématiques qui nous sont extrêmement chères. Voilà, je pense que c'est un petit peu l'introduction. Juste un mot aussi pour dire qu'un des aspects que Paul m'a fait découvrir dans tout ce que recouvrait le champ de l'Open Science à Liège, c'est l'édition, notamment avec ces pop-up qui sont ces journaux que nous éditons localement, je dirais. Et donc, vous devez le savoir, vous qui êtes en partie, beaucoup d'entre vous sont dans le monde de l'édition. Liège a aussi un glorieux passé d'édition, puisqu'à la fin du XVIIIe siècle, bon nombre d'éditeurs, notamment y compris des éditeurs qui sont allés à Paris ultérieurement, comme Desoères notamment, se sont illustrés en éditant l'encyclopédie ou des versions, je dirais, locales, analogues à la démarche des encyclopédistes. Donc, je pense qu'il y a mille raisons pour vous accueillir ici et au nom de mon institution, je vous en remercie encore.
Vous aurez compris que quand il dit Paul, il veut dire Uliège Limbrerie dans sa globalité. Ben, bonjour. Bonjour à tous. Je dois dire que je suis très heureux et très honoré que le réseau Médicis nous ait sollicité et accordé sa confiance pour organiser ici à Liège les premières journées Médicis hors France. Et c'est quand même un petit peu la preuve que la Terre n'est pas plate et qu'en plus, au-delà de la France, il y a encore quelque chose qui existe, quoi. Alors, mais plus sérieusement, c'est aussi la preuve que les problématiques d'édition scientifique, académique, notamment en langue française, mais peut-être pas que en langue française, ne sont pas franco-françaises uniquement, qu'elles peuvent être partagées au-delà des frontières, au-delà des spécificités régionales et de pays. Vous êtes plus de 150 à peu près à avoir accepté de venir ici jusqu'à Liège, d'avoir pris des risques de prendre des Thalys et 36 autres choses bien dangereuse, tout au nord, encore plus au nord que le nord de Danny Boone, dans le pays qui n'est pas que le pays de la bière, du chocolat, de la bande dessinée et du surréalisme, mais aussi un pays où il se fait des choses au niveau de l'édition académique. Et c'est vrai que depuis très longtemps, ici à Liège Librairie, l'édition numérique ouverte est au cœur de notre action. D'ailleurs, elle fait partie intégrante de nos missions qui ont été définies par le conseil d'administration dans nos statuts. Et non seulement parce que, comme le vice-recteur l'a signalé tout à l'heure, nous sommes très orientés open science et open access depuis très longtemps, mais aussi parce que nous avons la conviction que les bibliothèques doivent devenir des acteurs de la publication et apporter le support aux chercheurs en s'appuyant sur leur expertise et leurs compétences qui sont spécifiques. La conviction que nous ne devons pas intervenir uniquement en aval de la communication scientifique lorsque le périodique est publié et qu'on le met dans nos rayons ou sur nos étagères numériques, mais intervenir beaucoup plus en amont et accompagner l'auteur, le chercheur, dans tout le processus de publication et d'édition. Et c'est des choses que nous faisons déjà depuis longtemps en accordant un support aux chercheurs à travers, par exemple, Pop-Ups, le portail de publication de périodiques scientifiques que les bibliothèques de l'Université en Liège ont mis sur pied à peu près une vingtaine d'années maintenant, en 2005. Au début, quand on a décidé de faire cela, c'est parce qu'il y avait des revues scientifiques de haute qualité à l'Université de Liège qui étaient au bord du gouffre. Elle n'avait plus l'argent pour continuer à publier au format papier et il lui restait deux choix, soit de disparaître, soit se vendre à nos grands amis les éditeurs du style Elsevier, Wiley, Springer et d'autres du même acabit. Et nous, les bibliothèques, on a voulu leur proposer une autre voie, celle de la publication directement au niveau de l'université, la publication à travers ce portail pop-up, ce qui est totalement gratuit pour l'auteur, totalement gratuit pour les revues, et c'est les bibliothèques qui en assument la totalité de la charge. Alors, au début, ça ne s'adressait qu'à nos propres revues à Liège, et puis assez vite, d'autres acteurs, une université de Bruxelles, l'université Saint-Louis, et puis l'Académie royale des sciences de Belgique, sont venus nous trouver en demandant s'ils pouvaient aussi participer à Pop-Ups et placer des revues sur notre portail. On a été surpris, mais on a accepté, et j'y reviendrai dans un instant. Puis aussi, on a des chercheurs qui sont venus nous trouver pour voir si ce n'était pas un moyen de communiquer des actes de congrès qui s'organisaient à Liège. Là aussi, surprise, et on a accepté, on a joué le jeu. Et il y a 7 actes de colloque qui sont actuellement sur Pop-Ups. Et puis plus récemment, on a développé ePublish en 2020. C'est aussi un portail, mais pour la publication d'ouvrages numériques en accès ouvert. C'est important. Parce que si on veut la bibliodiversité, on a intérêt à ne pas laisser tout aux éditeurs commerciaux, surtout les plus voraces, hein, mes grands amis d'Elsevier pour ne pas les citer, mais de proposer des alternatives et d'autres voies. Mais au-delà de cette bibliodiversité, pour moi, il y a une intime conviction. Nous, la communauté scientifique, nous devons reprendre la main totale sur la diffusion des savoirs que nous construisons. Nous faisons déjà tout le travail à part l'édition, qu'on a laissé à des acteurs commerciaux pour des... qu'on considérait que ce n'était pas notre core business, nous avons à reprendre cette tâche-là totalement. Et je dis souvent que si dans le monde, chaque université, chaque centre de recherche acceptait de prendre en charge une ou deux revues, ben le problème serait réglé globalement pour toute la publication scientifique mondiale. Peut-être une anecdote à ce niveau-là, je suis le représentant belge dans le projet Scope 3 qui est piloté par le CERN, le projet de publication en open access de, tous les articles, 90% des articles de physique des hautes énergies. C'est un projet mondial avec tous les pays presque qui sont impliqués, sauf peut-être la Russie et la Corée du Nord, et peut-être là ou l'autre. À un moment donné, j'étais en Governing Council là-bas et je dis, mais on consacre énormément d'argent pour mettre en open access tous ces articles de physique des hautes énergies. Est-ce qu'on ne pourrait pas consacrer une petite partie à créer une ou deux revues de très haut niveau avec la garantie du CERN, puisque c'est le CERN qui pilote Scope 3 au niveau de la qualité. Tous les chercheurs de physique des hautes énergies pourraient publier dedans gratuitement, avec un accès gratuit pour les lecteurs aussi, et le problème serait réglé. La réponse a fusé. Si on fait ça, il faudra attendre au moins 2 ans pour avoir un facteur d'impact. Donc, on ne le fait pas. Et donc, on en est toujours là. On est bloqué par ces événements, ces éléments du passé comme le facteur d'impact qui ralentissent tout le développement de la communication scientifique ouverte. Et à ce niveau, je suis vraiment très heureux qu'il y a quelques jours, la semaine passée, monsieur le vice-recteur, notre université a signé COARA, qui est donc cette coalition qui veut promouvoir une autre manière d'évaluer la science, d'évaluer les chercheurs, d'évaluer la recherche, que simplement le facteur d'impact et des éléments quantitatifs, mais de faire intervenir du qualitatif aussi dans l'évaluation. Je crois que c'est un facteur de changement qui peut nous aider. Alors, les deux thèmes que les journées d'édition ont retenus cette année, l'édition éco-responsable et sobriété numérique, et puis diversité et complémentarité des métiers du livre, ça fait vraiment écho chez nous, parce que c'est au cœur de nos réflexions déjà depuis pas mal de temps, notamment pour le développement durable, et le vice-recteur en a dit un mot, c'est un axe important de la politique de notre université, mais aussi parce que simplement nous sommes des citoyens du monde et on est conscient des enjeux auxquels nous devons faire face. Et au-delà de la problématique de la production papier et des questions que ça pose au niveau environnemental, il faut se dire aussi que ce n'est pas parce que c'est numérique, ce n'est pas parce que c'est dématérialisé qu'il n'y a pas de coût environnemental. Le nuage, le cloud, c'est d'abord et c'est avant tout des fermes de serveurs extrêmement énergivores. Et je pense que les efforts ne sont pas que technologiques pour avoir des serveurs qui consomment moins d'énergie, mais ils sont aussi stratégiques et politiques. Et à ce sujet, la multiplication des périodiques et des articles qui n'apportent pas réellement quelque chose de nouveau dans le concert scientifique, c'est un non-sens. Non seulement d'un point de vue scientifique, parce que ça fait perdre un temps fou aux chercheurs qui sont face à une marée d'informations dont beaucoup ne sont pas très utiles, mais c'est aussi un non-sens écologique et environnemental. Ce diktat du « publish or perish », en fait, les seuls bénéficiaires, ce sont les actionnaires des grandes, entre guillemets, maisons d'édition. Toutes ces publications peu utiles, elles occupent de la place sur les serveurs, elles occupent du temps machine, elles occupent du temps humain, tout ça inutilement, on peut en faire l'économie. Et ça m'amène à faire un lien avec la deuxième thématique de ces journées, peut-être en se posant la question, mais pourquoi finalement chaque labo souhaite avoir sa propre revue qu'il va diffuser à côté de la revue du laboratoire voisin, etc. Pourquoi est-ce que chaque université veut sa pépinière? Rester isolé, c'est le meilleur moyen pour être incapable de relever les défis. Il faut, je pense, établir des collaborations, créer des ponts avec d'autres acteurs de tout type dans l'université ayant de l'or, partager des ressources, conjuguer les compétences respectives au sein de l'université, avec les presses universitaires, avec les bibliothèques, etc., mais aussi au-delà, entre universités et peut-être avec d'autres acteurs aussi. Dans ce cadre-là qu'on a proposé aux autres universités belges francophones, le projet ACOBE, Academic Open Book Edition, dont on parlera tout à l'heure. Les autres universités nous ont suivis et on a présenté le projet à la ministre de l'Enseignement supérieur de Belgique francophone, qui l'a approuvé et financé. Donc, c'est l'idée de développer un ensemble de ressources, de briques logicielles, mais aussi de workflow, qui puissent être utilisées partout pour publier de manière numérique ouverte des ouvrages. Et c'est Jason qui nous en parlera tout à l'heure. Et donc, c'est fort de ces convictions que nous nous réjouissons d'accueillir cette année les journées Medici, car nous sommes certains que vos interventions et toutes les discussions qui pourront avoir lieu au cours de ces 3 jours vont nous apporter beaucoup, car effectivement, nous ne sommes qu'au début du chemin. Des journées comme celle-ci sont essentielles, car c'est ensemble, en bénéficiant des apports de chacun, que nous allons pouvoir réinventer le monde de la communication scientifique de demain, en n'hésitant pas à faire sauter les barrières entre les acteurs, mais aussi celles des habitudes de ce qui était il y a peu des impondérables liés à la production du papier et que le numérique permet de faire exploser. Merci aux responsables du réseau Medici de perpétuer l'organisation de ces journées et de se mobiliser pour amener chaque année des thématiques qui nous poussent en avant. Merci à vous tous d'être là et de partager avec nous au cours de ces 3 jours. Merci à notre vice-recteur à la recherche qui a accepté d'être présent aujourd'hui et qui montre par là l'importance qu'il accorde à la science ouverte et à la diffusion des savoirs scientifiques. Et puis enfin, merci à Bernard et à Aurore, ainsi que les autres membres du Liège Librairie qui ont collaboré à l'organisation de ces journées. Je vous souhaite des journées extrêmement enrichissantes et très intéressantes. Bonne journée.
Alors, le vice-recteur a parlé de la fresque. On aurait pu parler d'histoire politique belge, puisque en tant que responsable des presses universitaires, ce n'est pas mon métier premier. Je suis en fait professeur de sciences politiques. Et accessoirement, vous savez, dans le milieu universitaire, on rend des services à la collectivité. En l'occurrence, les services que je rends à la collectivité, c'est de diriger les presses universitaires. Et donc, nous aurions pu parler d'autre chose. Mais le livre est évidemment au cœur de mon propos, et vous allez voir l'étroite imbrication avec Liège Library, puisque le livre est comme la roue, une sorte de perfection indépassable dans l'ordre de l'imaginaire. Cette phrase, on la doit à Jean-Philippe de Tonnac. Et si le livre est une perfection indépassable dans l'ordre de l'imaginaire, force est de constater qu'il l'est également dans les faits. Les ventes, en effet, de supports papier des presses universitaires, puisque je m'en cantonne à mon rôle de presse universitaire, destiné principalement aux étudiants ici à Liège, sont en croissance constante. Si on regarde ces 5 dernières années, nos ventes, eh bien nos ventes de livres édités par les presses ont augmenté de plus de 70%, alors que les ventes des syllabus ont augmenté de plus de 20%. Ce chiffre est d'autant plus interpellant que nous sommes désormais contraints de mettre en ligne nos supports de cours pour les étudiants et que nous bénéficions, grâce à Orbi, d'un répertoire institutionnel pour mettre nos publications en ligne. Étrange paradoxe donc, qui témoigne de notre rapport au livre papier, y compris parmi la jeune génération. À y regarder de plus près, cette situation n'est peut-être pas si paradoxale que cela. Nous avons tous une bibliothèque chez nous, quelle que soit sa taille. Le livre reste un cadeau que nous privilégions pour les fêtes ou tout simplement lorsque nous sommes invités à un repas. Les livres ont une histoire, ils ont une odeur. J'aime bien sentir les livres. Certains nous accompagnent partout et il y a toujours bien un livre que nous emmènerions avec nous sur une île déserte. À l'heure du numérique, le livre papier ne disparaîtra pas. Pourtant, un danger nous guette, c'est celui de la boulimie informationnelle, ou pour être plus précis, celui de l'illusion que nous pourrions avoir toutes les connaissances à portée de main en un seul clic, et ChatGPT le prouve. Est-ce le modèle que nous souhaitons promouvoir ? Alors, aux Presses universitaires de Liège, nous avons décidé de ne pas tomber dans ce piège de la boulimie informationnelle quand nous avons décidé en 2020 de publier les livres numériques grâce à ePublish, dont vient de parler Paul. Nous avons d'abord mené une expérience sur 5 ouvrages en étroite collaboration avec Uliège Library. Ce choix, il fait en fait directement écho aux 2 thèmes des journées Médici. D'une part, en ce qui concerne les acteurs de l'édition scientifique ouverte, nous avons opté pour un modèle où les compétences de chacun sont judicieusement mises en valeur. L'idée n'est pas de concurrencer Uliège Library, qui a la compétence de l'édition scientifique ouverte au sein de notre institution. Du côté des presses universitaires, nous restons focalisés sur le travail du livre papier, depuis la réception d'un manuscrit jusqu'à sa publication. D'autre part, en ce qui concerne l'édition éco-responsable et la sobriété numérique, nous savons tous que l'édition numérique n'est pas nécessairement moins polluante que le livre papier. Des chercheurs ont bien montré qu'il faudrait lire 40 livres numériques sur une liseuse pour que ces émissions de CO2 par livre soient équivalentes à celles d'un livre papier. Et si le livre est lu, le livre papier est lu par 2 personnes, cela représente 80 livres numériques. Et je ne vous parle pas, comme Paul l'a fait, de l'énergie nécessaire pour stocker sur un serveur. Mais plus fondamentalement, quel modèle de société souhaitons-nous à travers l'édition ? Et là, je reprends mon costume de politologue. Que souhaitons-nous transmettre aux générations futures ? Qui dit transmission, dit mémoire. Parmi les fonctions de la mémoire, tant individuelle que collective, on trouve certes la conservation de certaines données, mais la mémoire a aussi une fonction d'oubli. Il faut parfois laisser sombrer certaines informations qui ne nous servent pas ou qui pourraient encombrer inutilement nos cerveaux. Sauf si nous souhaitons ressembler à ce personnage de Funès, inventé par Borges dans Funès ou la mémoire, qui est doté d'une capacité à se souvenir de tout. Or, se souvenir de tout est le contraire de la culture. Umberto Eco l'a bien écrit. La culture est un cimetière de livres et d'autres objets à jamais disparus. Prenons un exemple. Il est probable qu'un historien puisse retrouver le nom de tous les participants à la bataille de Waterloo, et l'exemple est choisi à dessein en écho à ce que vous a dit notre vice-recteur enseigne-recherche. Il ne les enseignera pas, tous pour autant, parce que ces détails ne sont pas nécessaires et sont peut-être même dangereux. L'éditeur éco-responsable qui prône la sobriété numérique doit donc filtrer, faire des choix. L'enjeu n'est pas de chercher à savoir si l'édition scientifique numérique mettra fin à l'édition scientifique papier. Les 2 éditions sont complémentaires. Nous ne nous débarrasserons pas des livres papier. L'enjeu est de déterminer les critères de publication scientifique, tant numérique que papier, qui permettront en toute complémentarité que soient transmis aux jeunes générations les idées et les instruments pour travailler au progrès de l'humanité. Pour ce faire, ne cessons jamais de rêver, et j'espère que ces journées Médicis seront l'occasion pour vous de rêver, car comme l'écrit très bien Jean Jaurès, le progrès de l'humanité se mesure aux concessions que la folie des sages fait sagesse des fous. Je vous remercie.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir d'être de nouveau réunis en présentiel pour ces 11e journées Médicis. Au nom du comité de pilotage du réseau, je tiens à remercier messieurs Mouchen, Thirion et Grandjean de nous recevoir dans cette magnifique université de Liège. C'est encore plus beau que sur les photos. Je remercie également toute l'équipe de la bibliothèque pour son accueil, ainsi que le formidable comité d'organisation qui a permis que ces journées se tiennent. Je sais combien de temps et d'énergie vous avez passé, tout le cœur à l'ouvrage que vous y avez mis, pour permettre à notre communauté de se retrouver une fois de plus dans un cadre de travail aussi agréable que studieux. Merci et bravo à vous sept, Annabelle, Aurore, Bernard, Emmanuel, Livia, Stéphane et Véronique, d'avoir concocté ce superbe programme pour les 3 jours à venir. Je souhaite également remercier chaleureusement les intervenantes et les intervenants d'avoir accepté de s'engager dans cette aventure à nos côtés, parfois pour la toute première fois, pour partager avec nous leurs connaissances et leur expertise. L'organisation d'un événement de cette ampleur, 150 personnes, 3 journées d'échange et de formation, des moments de convivialité, nécessite, vous l'aurez compris, une forte implication des membres du comité d'organisation, mais également un budget conséquent. J'adresse mes plus vifs remerciements à nos institutions respectives pour nous avoir permis de nous investir pendant plusieurs mois dans la préparation, ainsi qu'à nos partenaires institutionnels pour leurs subventions indispensables à la réalisation des journées. Pour cette édition, nous bénéficions du soutien renouvelé du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, d'une part, du CNRS, d'autre part, par le biais de la mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires, la MITI, mais aussi de la Direction des données ouvertes de la recherche, la DEDOR, de l'Institut d'archéologie méditerranéenne Arcaïa, de l'Institut Société en mutation en Méditerranée, du LAMPEA, de la MSH Ange-Guépin et du CCSD, et, pour la première fois, du soutien des éditions de l'EHESS, du Laboratoire de recherche Héritage et d'INRIA. Après 14 ans d'existence, c'est la toute première fois que Médicis s'aventure au-delà des frontières de la France. C'est une belle occasion pour nous de regarder notre réseau autrement, de prendre un peu de recul. À cet effet, j'aimerais revenir sur les dernières années de Médicis et je m'appuierai pour cela sur le document que nous avons élaboré au sein du comité de pilotage en début d'année à l'occasion de l'évaluation quinquennale du réseau par la MITI. Ces dernières années, vous l'aurez peut-être remarqué, ont été particulièrement fastes pour le développement de Médicis, qui a vu sa communauté tripler entre 2015 et aujourd'hui, le nombre de personnes abonnées à la liste de diffusion passant de 256 à 771. Cet afflux massif d'inscriptions témoigne d'un intérêt croissant pour l'édition scientifique publique, au-delà du seul noyau des professionnels de l'édition. La communauté est composée de professionnels qui occupent des fonctions en lien avec l'édition scientifique publique, dans les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, au sein d'organismes de recherche tels que le CNRS, INRIA, INRAE, d'universités, de presses universitaires, de grandes écoles, etc. Toutes les fonctions éditoriales sont présentes, graphisme, fabrication, éditoriale, diffusion, juridique et financier, politique éditoriale. La communauté est principalement française, répartie en France métropolitaine et ultramarine, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et aux Antilles, mais également ouverte aux pays francophones. Elle compte des abonnés belges, je crois qu'ils sont toutes et toutes présentes avec nous aujourd'hui, suisses et aussi canadiens et canadiennes. L'engouement de ces dernières années pour les thématiques relatives à l'édition ne doit pas faire perdre de vue les objectifs principaux de notre réseau, que sont, d'une part, rompre l'isolement des collègues, et d'autre part, l'entraide et la formation, par nous-mêmes, aux évolutions de nos métiers. Ouvert à l'ensemble des disciplines scientifiques et résolument interorganismes, Médicis fédère toute personne impliquée dans une chaîne éditoriale, quel que soit son statut. Ces journées liégeoises sont ainsi l'occasion d'accueillir un vivier de nouveaux et de nouvelles collègues, ce dont je me réjouis. Je leur souhaite de trouver dans le réseau un espace pour échanger et trouver les réponses aux questions qui peuvent se poser quotidiennement dans l'exercice de leur métier. Médicis, vous l'aurez compris, est en effet un réseau métier qui existe par l'implication de ses membres. Que ce soit via les contributions sur la liste de diffusion, par une activité dans un groupe de travail, l'animation d'un webinaire ou encore d'une formation, la participation au comité de pilotage, l'investissement des collègues se fait toujours sur la base du volontariat. Je souhaite ici remercier toutes celles et ceux qui, depuis toutes ces années, œuvrent pour faire vivre notre réseau. Afin de renouveler les forces vives, chacune et chacun d'entre vous est donc invité à s'impliquer dans le collectif à la hauteur de ses envies et de ses disponibilités. Aucune compétence spécifique n'est requise en amont. Nous partons du principe que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Pour mieux se connaître et identifier les compétences des unes et des autres, mais également renforcer le lien entre les membres, nous avons élaboré une charte qui fixe le périmètre d'action et les règles de fonctionnement. Être membre se formalise par l'inscription sur le site du réseau et l'engagement à respecter cette charte. C'est ce qui nous permet également de maintenir un cadre serein pour toutes et tous. Nous construisons ensemble le réseau que nous souhaitons. Toute contribution est donc la bienvenue pour faire vivre le réseau. Et à ce titre, je vous invite à profiter des moments informels lors de ces journées pour échanger avec les collègues des groupes de travail et du comité de pilotage qui se feront, je n'en doute pas, un plaisir de répondre à toutes vos questions. Nos journées sont un temps fort du réseau puisqu'elles permettent de répondre à nos deux objectifs principaux. Elles sont un moment de respiration pour nombre d'entre nous qui peuvent par ailleurs être isolés dans leur quotidien de travail. C'est aussi une formidable occasion d'échanger avec les collègues, mais également de se former. Depuis 2018, 11 formations ont été organisées d'une durée variant d'une à cinq journées. Ces actions de formation découlent directement des besoins remontés régulièrement par les membres du réseau. Elles peuvent prendre trois formes. Des formations initiales, destinées à accompagner les collègues nouvellement arrivés dans leur poste. Des formations plus techniques, généralement sur deux jours, permettant d'accompagner l'évolution des métiers. Et enfin, des formations qui favorisent la réflexivité sur notre environnement de travail, typiquement les journées du réseau. Ces formations se sont tenues principalement à Caen, pour la moitié d'entre elles, Paris, Aix-en-Provence et Toulouse, et ont permis de former 168 personnes. Lors des journées, d'autres temps de formation et d'échange sont proposés. En alternance avec les sessions plénières, qui permettent de prendre du recul sur notre quotidien, se tiennent des ateliers d'une durée de 3 heures qui offrent la possibilité à chacune et chacun d'appréhender un aspect plus précis du métier. Enfin, les MedCamp, temps d'échange informel, sont conçus comme un lieu où la parole peut circuler plus librement. Il n'est pas question ici d'animer, mais de co-construire. Tous ces moments permettent de se rencontrer, de partager des informations, de faire évoluer ses connaissances, nos connaissances. Cette émulation collective peut donner lieu à l'implication individuelle dans un groupe de travail, ce qu'on appelle un GT, ou encore susciter l'envie d'en créer un nouveau pour combler une demande commune. À l'heure actuelle, nous avons 4 GT qui fonctionnent, formation, veille, droit d'auteur et accessibilité, ainsi qu'un GT interréseau sur les données. Nous aurons l'occasion de découvrir leurs activités vendredi après-midi, en espérant que la présentation de ceux-ci suscite l'adhésion de nombre d'entre vous. Avant de conclure et de transmettre la parole à Bernard pour la présentation du programme des réjouissances pour ces 3 jours, j'aimerais remercier très chaleureusement les membres du comité de pilotage sortant pour ces 5 années passées à travailler ensemble dans ce beau réseau qui nous réunit aujourd'hui. Merci Cécile, Flavie, François-Xavier, Mickaël, Romain et Stéphane. J'ai été personnellement ravie de partager cette aventure professionnelle et humaine à vos côtés. Nous avons fait de belles choses utiles, ensemble, dans une ambiance à la fois conviviale et studieuse, et vous m'avez personnellement beaucoup apporté. Donc bravo à vous et belle continuation au nouveau Copil qui prend ses marques à l'occasion de ces journées liégeoises, et que cette invitation chez nos collègues belges soit l'occasion d'ouvrir nos horizons professionnels et d'avoir un regard renouvelé sur l'édition scientifique publique. Je nous souhaite à toutes et à tous de très belles journées Médici.
Voilà, je reprends mes notes. Mais je vais d'abord commencer par remercier au nom du réseau, au nom de tous les participants, remercier Céline pour son animation du réseau pendant ces années. Et voilà, franchement, je pense que Céline a fait vraiment progresser le réseau, a fait avancer, a améliorer sa communication. Et merci Céline. Voilà, donc officiellement, les journées sont commencées. Et donc, je vais commencer par expliquer un petit peu les quelques points saillants du programme et des thèmes que nous avons choisis. Donc, en fait, lorsqu'on a évoqué la participation l'organisation à Liège des Journées Médici, on avait deux thèmes. Et comme ces deux thèmes sont des thèmes particulièrement d'actualité, eh bien, on a décidé de les choisir tous les deux. Et c'est pour ça que le programme se décline en deux journées plénières, avec chacune un thème différent. Et donc, le premier thème, éco-responsabilité et sobriété numérique, va être développé cet après-midi. Et le second thème, les acteurs de l'édition scientifique ouverte, diversité et complémentarité des métiers du livre. Il a fallu bien réfléchir pour avoir un beau titre. Se dérouleront vendredi matin. Alors, par rapport à l'éco-responsabilité, on parle bien sûr de réduction de l'empreinte numérique, en tout cas dans du fait des éditeurs publics, de promotion de l'éco-conception, en particulier des structures éditoriales qui publient encore des livres papier. Donc, je pense que tout est dans tout, il faut rien laisser de côté. Alors, lors des panels des échanges de cet après-midi, on va être amené à penser à l'utilisation des technologies de l'information matérielle et logicielle de manière responsable et concrète, à la production, à la distribution, à la vente des livres imprimés, papier, certifié FSC, impression à faible impact, etc. Donc, c'est tous des aspects qu'on va aborder. Donc, les deux premières sessions de cet après-midi sont consacrées chacune à ces deux préoccupations, le volet plus numérique et le volet plus papier. Alors, comme je fais des raccourcis dans mon papier, donc les deuxièmes journées, le deuxième thème sera abordé vendredi matin. Alors, je vais passer parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Voilà, donc cet après-midi, donc la session 1 de 15h, donc on est déjà un petit peu en retard, à 16h30, on va parler de sobriété numérique et c'est Benoît Éperon qui nous vient de la Haute École de gestion de Genève qui va animer le panel avec quatre invités. Vous avez tous reçu le programme, ça ne sert à rien que je répète les noms. Et de 17h à 18h30, ce sera une réflexion sur l'éco-responsabilité de l'imprimé et la session sera liée par Albert de Pétigny, qui est président de l'Association pour l'écologie du livre et qui travaille aux éditions Pour Penser. Donc, je pense qu'il se présentera lui-même de toute façon. Alors, à 19h, à l'étage juste au-dessus, là où vous avez déjà pu prendre le café, nous aurons l'occasion de déguster des pierres qui sont produites au sein de l'université, mais à Jean Blou, donc à la faculté de Jean Blou, qui est à 80 km d'ici. Et à 20h, on terminera par un buffet dînatoire. Alors, la suite des journées ne se déroulera pas dans ce bâtiment-ci, mais à 400 mètres de l'autre côté de la Meuse. Donc, la Meuse est juste là derrière. Et donc, on traverse par la passerelle. On va flécher tout ça. Donc, vous allez pouvoir trouver assez facilement. Donc, de 9 à 12h30 et de 14h à 17h30, il y aura les 2 fois 3 heures d'atelier avec des petites pauses. À 19h, les traditionnels Metcamp que Céline vient d'évoquer, donc Metcamp, MED, oui, donc c'est Medici, donc c'est un terme qui est inventé, qui est spécifique à Medici, donc ne cherchez pas des Metcamp dans d'autres organisations, c'est vraiment une invention Medici, qui nous est tout à fait propre. Alors, à 19h demain, comme on n'aura pas l'occasion de présenter à tout le monde le programme de demain, je le présente maintenant. Donc, nous avons prévu des visites de la ville de Liège en 3 groupes de 25 personnes. Donc, vous avez pu voir les listes, vérifier si vous étiez bien inscrit. Donc, la visite démarre à 19h à l'endroit où on se trouvera demain après-midi et demain matin. Alors, à 20h, nous avons organisé aussi un rendez-vous au village gaulois qui se trouve dans le piétonnier de Liège. Alors, le village gaulois, en fait, c'est un marché de Noël en été. Et donc, vous ne serez pas complètement perdu et vous verrez, vous pourrez y voir des aspects de la gastronomie liégeoise, etc. Vendredi, je ne vais pas aller plus loin dans le programme. Donc, il y aura deux sessions, une session focus, deux sessions de présentation, de communication sur le deuxième thème. Et alors, c'est Anne-Solveig Grimier qui est chargée d'études, d'édition scientifique et services à la recherche, qui assure le rôle de grand témoin et qui, à la fin de cette matinée, va faire la restitution des journées juste avant le déjeuner. Déjeuner surprise, donc je n'en dis rien pour l'instant, vous verrez, on vous a préparé une surprise. Et voilà, avant de passer la parole à Benoît Hébron et à son panel, je voudrais quand même remercier un certain nombre de personnes parce que c'est quand même les choses qui sont à faire. D'abord, le réseau Médicis lui-même qui a accepté, et Paul l'a déjà dit, mais je le répète, que les journées soient organisées ici à Liège et qu'on puisse aussi montrer ce que nous faisons ici à Liège. Les membres du comité d'organisation, et donc je vais les reciter, donc il y a Aurore Garven, Céline Bartoma, Emmanuel Perrin, Livia Foraison, Véronique Cohner, Annabelle Vasquez et Stéphane Renaud. Ils n'ont vraiment pas compté leurs heures, donc ça fait 6 mois qu'on est sur le métier. Donc voilà, vous allez probablement trouver des choses qui ne vont pas bien, mais en général, je pense qu'on a bien fait le job. Anne Koulmic-Renaud qui a mis en page le programme, donc le programme que vous pouvez emporter partout avec vous et qui va vous aider à vous organiser pendant ces journées. La cellule événement, l'administration des personnes, des ressources immobilières, le département traduction-interprétation de l'Université de Liège, donc c'est là où nous allons nous trouver demain et après-demain, ainsi que de nombreux collègues de la bibliothèque et des presses qui n'ont pas non plus compté leurs heures, et vous tous d'être présents aujourd'hui, parce que vous avez quand même dû faire un long trajet, parfois pas très facile pour arriver jusqu'ici. Merci à tous, et je déclare les journées ouvertes, et je crois qu'on va pouvoir commencer à travailler.